Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science Chrétienne Indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 mars 2026. Sujet, la matière. Texte d'or, Jérémie. « Mon peuple se rassasira de mes biens, dit l'Éternel. » Lecture alternée. Psaume. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La Bible. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées, pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide. » Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Seules des jouissances plus élevées peuvent satisfaire les aspirations de l'homme immortel. Nous ne pouvons circonscrire le bonheur dans les limites du sens personnel. Les sens ne procurent aucune jouissance réelle. Il faut que, dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal et le spirituel sur l'animal, sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée et toute montagne d'égoïsme abaissée afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. La beauté, la fortune ou la renommée sont incapables de satisfaire les exigences des affections et ne devraient jamais l'emporter sur les droits supérieurs de l'intellect, de la bonté et de la vertu. Le bonheur est spirituel, né de la vérité et de l'amour. Il n'est pas égoïste. Par conséquent, il ne peut exister seul, mais demande que toute l'humanité y participe. Si vous êtes trop matériel pour aimer la science de l'entendement, et que vous vous contentiez de bonnes paroles au lieu de résultats, si vous persistez dans l'erreur, et si vous craignez de vous fier à la vérité, alors la question se renouvelle. Adam, où es-tu ? Il est inutile d'avoir recours à autre chose qu'à l'entendement pour convaincre les malades que vous les aidez, car s'ils sont guéris, ils le savent généralement et sont satisfaits. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si vous avez plus de foi dans les médicaments que dans la vérité, cette foi vous fera pencher du côté de la matière et de l'erreur. Tout pouvoir hypnotique que vous pourrez exercer diminuera votre aptitude à devenir scientiste, et vice-versa. L'action de guérir les malades par l'entendement divin seul, de chasser l'erreur par la vérité, montre jusqu'à quel point vous êtes scientiste chrétien. Les exigences de Dieu s'adressent à la pensée seule, mais les prétentions de la mortalité et ce que l'on nomme loi de la nature ont trait à la matière. Alors lesquelles devons-nous accepter comme légitimes et capables de produire le plus grand bien humain? Nous ne pouvons obéir à la fois à la physiologie et à l'esprit, car l'un détruit absolument l'autre, et il faut que l'un ou l'autre soit suprême dans nos affections. Il est impossible de travailler en partant de deux points de vue différents. Si nous tentons de le faire, nous nous apercevrons bientôt que nous nous attachons à l'un et méprisons l'autre. C'est la spiritualisation de la pensée et la christianisation de la vie journalière, en contraste avec les résultats de l'horrible comédie de l'existence matérielle. C'est la chasteté et la pureté, en contraste avec les tendances inférieures et l'attirance terrestre du sensualisme et de l'impureté qui témoignent réellement de l'origine divine et de l'opération de la science chrétienne. Il y a grand danger à enseigner la guérison entendement sans user de discernement dans le choix des élèves, ne tenant ainsi aucun compte de leur qualité morale et ne pensant qu'aux honoraires. Se rappelant ces paroles de Jefferson sur l'esclavage, « Je tremble lorsque je me rappelle que Dieu est juste. L'auteur de ce livre tremble chaque fois que pour une mesquine question d'argent, elle voit quelqu'un enseigner la faible connaissance qu'il a du pouvoir de l'entendement, communiquant peut-être ses mauvais principes et agissant ainsi sans pitié à l'égard d'un public non préparé à se défendre. Supprimons les richesses, la renommée et les organisations sociales qui ne pèsent pas un iota dans la balance de Dieu et nous obtiendrons des vues plus claires du principe. Dispersons les coteries, que l'honnêteté nivelle la richesse, que le mérite soit apprécié selon la sagesse et nous obtiendrons des vues plus justes de l'humanité. Les prétendus plaisirs et douleurs de la matière périssent et il faut qu'ils disparaissent sous l'éclat de la vérité, du sens spirituel et de la réalité de l'être. La croyance mortelle doit perdre toute satisfaction dans l'erreur et le péché afin de s'en défaire. L'entendement mortel juge d'après le témoignage des sens matériels jusqu'à ce que la science fasse disparaître ce faux témoignage. Une croyance devenue meilleure est un pas hors de l'erreur. Elle nous facilite le pas suivant et nous aide à comprendre l'état des choses en science chrétienne. Nous ne devons pas attribuer de plus en plus d'intelligence à la matière, mais de moins en moins, si nous voulons être sages et bien portants. L'entendement divin qui forme le bouton et la fleur prendra soin du corps humain, de même qu'il revêt l'hélice. Mais qu'aucun mortel ne se mêle du gouvernement de Dieu en y interposant les lois des faux concepts humains. La nature supérieure de l'homme n'est pas gouvernée par l'inférieur. S'il en était ainsi, l'ordre de la sagesse serait renversé. L'homme ne s'affranchit pas de son asservissement aux maîtres les plus impitoyables, les passions, l'égoïsme, l'envie, la haine et la vengeance, que par une lutte formidable. Chaque heure de délai rend la lutte plus difficile. Si l'homme ne remporte pas la victoire sur ses passions, elles détruisent le bonheur, la santé et la dignité d'homme. Ici, la science chrétienne est la panacée souveraine, donnant de la force à la faiblesse de l'entendement mortel, force qui provient de l'entendement immortel et omnipotent, et élevant l'humanité au-dessus d'elle-même jusqu'à des désirs plus purs, voire jusqu'au pouvoir spirituel et à la bonne volonté envers les hommes. Que l'esclave des mauvais désirs apprenne les leçons de la science chrétienne et il se rendra maître de ses désirs et montera d'un degré sur l'échelle de la santé, du bonheur et de l'existence. L'aspiration vers le bien céleste vient avant même que nous ayons découvert ce qui est du domaine de la sagesse et de l'amour. La perte des espérances et des plaisirs terrestres illumine pour bien des cœurs le chemin ascendant. Les douleurs des sens ne tardent pas à nous informer que les plaisirs des sens sont mortels et que la joie est spirituelle. Le développement spirituel ne naît pas de la graine semée dans le terrain des espérances matérielles, mais lorsque celle-ci se décompose. L'amour propage de nouveau les joies plus élevées de l'esprit qui n'ont pas de souillure terrestre. Chaque stade successif d'expérience révèle des vues nouvelles de bonté et d'amour divin. La science élève inévitablement notre être plus haut sur l'échelle de l'harmonie et du bonheur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.